Bonjour à chacun et à chacune. Oui, j'étais en train de me repenser. La première fois que je suis venu prêcher ici, je crois que c'était en 92. Ça fait, ouais, 32 ans. On était jeunes et beaux. Hein? On est toujours des jeunes, hein, des jeunes centenaires en formation. Hein? Mais on avance et je veux dire, quelle joie de voir avec ces années. Malgré les tumultes de la vie, malgré les difficultés, malgré les combats, des hommes, des femmes qui sont toujours sur la brèche. Moi, on se réunit avec les pasteurs avec qui j'ai fait ma formation en 1975. Alors, ça remonte quand même encore en arrière. Alors, on est tous des vieux, hein? On est clair. Mais une fois par an, tous les élèves de 1975, qui sont dans le service de Dieu, on se retrouve une fois par an autour de la femme de notre directeur d'école biblique, Monique Jaillet. Jean-Louis Jaillet était mon formateur. Et Monique Jaillet, qui est veuve, et nous a semblé bon de l'entourer, les anciens élèves, de l'entourer pour honorer aussi cette veuve qui a perdu son mari il y a 3-4 ans à peu près, hein, je ne sais plus exactement dans ces zones-là. Et on est toujours étonné de, malgré les années, hein, ça fait presque 50 ans maintenant, malgré les années, on est sur la brèche, on est attentif, on est au moins à plus de 80% qui sommes toujours tous dans l'œuvre de Dieu, avec la même niaque, comme les jeunes disent, avec la même foi. Et ça, c'est un miracle. Ça, c'est vraiment un miracle, c'est vraiment un miracle de Dieu, parce que nous sommes dans un monde antichrist, nous sommes dans un monde de séduction, nous sommes dans un monde avec des influences qui veulent détruire la face de Christ. Vous savez que vous êtes la face de Christ. Vous savez que vous êtes la face de Christ? Peut-être que vous n'êtes pas convaincu quand vous vous regardez le matin, peut-être avec les cheveux en pétard et tout ça. Hein, vous n'êtes peut-être pas convaincu, mais vous avez reçu Christ. Vous avez reçu Christ? Ah, quand même. Oui, vous avez reçu Christ. Si vous avez reçu Christ, et si vous le suivez, vous êtes la face de Christ. Quelle responsabilité! Quelle responsabilité! Alors, avant d'entrer dans mon message, je ne veux pas oublier de vous transmettre les salutations. Alors, bien sûr, de Jean-Paul. Je les ai eues en WhatsApp l'autre jour et Jean-Paul était coiffé avec les cheveux en l'air comme ça. Je lui ai dit, t'as une belle coiffure. Il était dans son lit, le pauvre. Ils ont été touchés par une forte grippe et, bon, arrivé à un certain âge, c'est plus compliqué, tout ça. Et tous les deux, ils sont passés des moments un peu difficiles sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, ils sont toujours au top. Hein. Alors, il m'a dit, surtout, n'oublie pas de leur transmettre tes salutations fraternelles. Hein, même si André l'a fait, je tiens à le faire de tout mon cœur pour Jean-Paul, où on est amis depuis 1989. Et c'est très important d'avoir des amitiés à long terme. Hein. Ça devient de plus en plus rare. Mais si on vit la parole, on peut garder les amis jusqu'à notre dernier souffle, parce que l'ami aime en tout temps. Amen. C'est-à-dire dans les temps faciles et dans les temps difficiles. D'accord. Et vous avez aussi des salutations fraternelles de mon église. Alors, je suis pasteur à Yvetot, pour ceux qui ne me connaissent pas, depuis des années. Et je suis aussi, je fais un travail missionnaire en Afrique depuis 23 ans. Depuis 23 ans, on a ouvert deux œuvres missionnaires, des œuvres pionnières, tout est pionnier. Et Dieu m'a beaucoup engagé dans tout ce qui est pionnier dans mon ministère. On travaille essentiellement au Sénégal, mais on a aussi travaillé au Cameroun et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Mais essentiellement, nos deux missions se situent au Sénégal, hein, parmi les musulmans, 92% de musulmans, et certains endroits, 98% de musulmans. Et combien je suis heureux à chaque fois que je baptise un ancien musulman. Je dis, Seigneur, c'est un djihadiste de moins. On peut dire ça comme ça. Hein. C'est un djihadiste de moi, c'est un rebelle face à la foi chrétienne de moi. Mais quelle victoire de voir la multiplication d'âmes qui viennent d'arriérés islamiques qui se donne vraiment à Jésus. Et je vais vous donner un secret. Un musulman qui se convertit vraiment, pas un adhérent, une vraie conversion, c'est les meilleurs chrétiens. Je peux vous garantir. C'est des super chrétiens. Mon responsable de la mission qu'on a là-bas, c'est un fils d'imam. Hein, il a été élevé dans l'islam toute sa vie. En plus, son père est non seulement imam, mais il est chef de village. Et cet homme qui s'appelle Thielem, qui a l'âge de ma fille, 49 ans, 48 ans, il est, je veux dire, c'est un responsable au top que beaucoup de pasteurs aimeraient avoir, parce que il a été touché, vraiment touché par le ressuscité, par Jésus. Alors, continuez à semer la parole. N'ayez pas peur des musulmans qui sont autour de vous, mais dites-leur combien Dieu les aime. Ils ne connaissent pas le Dieu d'amour. Comment peuvent-ils le connaître sinon à travers vous? Vous êtes l'image de Christ. Amen. Alors, je pense que j'ai rien oublié au niveau des salutations. Sinon, je fais partie aussi d'un mouvement d'église qui s'appelle Elim, Elim France. Le mouvement Elim est né suite au réveil du Pays de Galles en 1904, où il y a eu tout un réveil au Pays de Galles. Et il y a eu plusieurs mouvements de Pentecôte. Il y a les assemblées de Dieu, il y a les églises de Dieu, il y a les églises apostoliques, et il y a eu les églises Elim, d'où était issu Douglas Scott. Pour ceux qui connaissent, Douglas Scott était issu des églises Elim. Mais quand il est venu en France et a apporté une dimension de réveil en France, il est venu pas sous l'égide d'Elim, il est venu avec les assemblées de Dieu. Alors pendant des années, les assemblées de Dieu se sont déployées sur la France. Et Elim, on n'a jamais entendu parler d'Elim parce que Elim n'a pas semblé bon de venir en France puisqu'il y avait le travail qui était fait par les assemblées de Dieu. Ils ne voulaient pas, quelque part, concurrencer ou marcher sur les plates-bandes des assemblées de Dieu, parce qu'on a absolument le même enseignement, la même théologie, tout ça. Sauf quand, dans les années 90, entre 90 et 2000, un pasteur de Londres qui s'appelle Colin Dy a reçu un songe. Et dans ce songe, Dieu lui a dit l'a sensibilisé à la francophonie. Pasteur Colin Dy, qui était à une grande église de 15 000 membres à Londres. Et Dieu lui a dit, la langue de Voltaire a été utilisée pour blasphémer mon nom. Mais je vais utiliser cette langue pour glorifier mon nom. Ça, c'est une promesse que Dieu a donnée à Colin. Et Colin Dy, il a commencé à apprendre le français. Il a le même âge que moi, 70 ans. Et aujourd'hui, il est capable même de prêcher en français. Il y a vraiment un fardeau au niveau de la France. Et Elim France est né quelque part dans les années 2000 à Paris. Et ça s'est donc déployé un petit peu en France. Et nous faisons partie de ce mouvement-là. C'est pour, si vous voulez, nous cadrer. Oh, il y a à peu près une dizaine d'églises en France. Voilà, à peu près. Voilà, c'était pour que vous puissiez savoir un petit peu d'où je viens. Et je viens ici aussi aujourd'hui, particulièrement sur la demande du pasteur Jean-Paul Engler, qui m'a demandé de le remplacer, parce qu'il est dans le Tennessee. Et il m'a dit, est-ce que tu peux venir à ma place? Parce que, bon, comme on travaille ensemble depuis des années, et je suis très heureux d'être là. Voilà. Maintenant, ce que j'ai sur mon cœur, j'ai vraiment un fardeau au niveau de vous partager par rapport à l'Église. Beaucoup de chrétiens sont dans les églises locales, sont dans des mouvements d'Église, mais parfois très peu de chrétiens réalisent ce qu'est l'Église, le but de l'Église, et beaucoup font du n'importe quoi. Et des fois, en voulant bien faire, des fois on peut faire vraiment de la casse, par manque de connaissance. C'est le prophète Osée qui dit, par manque de connaissance, mon peuple, pas le monde païen, c'est mon peuple, meurt. Et il y a beaucoup de vies chrétiennes qui meurent, de vies chrétiennes qui se dessèchent, de vies chrétiennes qui ne voient plus la puissance du ressuscité dans leur vie parce qu'ils sont dans un principe de mort. Alors que nous servons et nous suivons celui qui, par nature, est le prince de la vie. Et vous savez, les temps changent, mais Jésus, lui, ne change pas. Hein, vous connaissez cette parole dans l'Épître aux Hébreux, que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le même. Et il nous a laissé sa parole, il nous a laissé son esprit, et je crois qu'il est là aussi au milieu de nous. Je ne suis pas venu ici ce matin pour vous donner des leçons de quoi que ce soit, mais je viens avec un cœur de père qui a ce fardeau de partager les choses précieuses d'en haut que Dieu m'a apprises durant mes 50 années de marche avec lui. Dieu m'a appris beaucoup de choses et j'en ai encore beaucoup à apprendre. Et je veux simplement vous le partager comme en Afrique, des fois autour du feu, pour ceux qui connaissent un peu l'Afrique, le soir autour du feu, les anciens partagent. On est autour du feu et bon, il n'y a pas de feu là, mais bon, il y a le feu de l'esprit. Je le souhaite de tout mon cœur, mais je veux vous partager des choses importantes, des choses précieuses qui peuvent tellement vous aider. Et c'est le désir de mon cœur. Je ne viens pas pour autre chose que ça. Je ne suis pas là pour blesser qui que ce soit, même si la parole de Dieu, parfois, peut blesser notre chair. Merci Seigneur, quand notre chair est blessée. Merci Seigneur, lorsqu'on apprend à mourir. Parce que même si c'est paradoxal, c'est pour apprendre à bien vivre, il faut apprendre à bien mourir. C'est paradoxal, les gens du monde disent, ils sont fous ces chrétiens. Mais pour ceux qui connaissent la parole, vous savez de quoi je parle. Et c'est sur ce chemin qu'on a chanté tout à l'heure que oui, Christ est mort pour nous, tout ça. Mais, oui, mais moi aussi, je dois mourir pour lui. Il y a une identification à sa mort. Jésus n'a-t-il pas dit que nous devions porter notre croix? Il ne nous a pas dit que le chemin était rocailleux, il était étroit. Et bien souvent, aujourd'hui, on a des adhérents dans les églises, on a beaucoup d'adhérents, et malheureusement, on a peu de convertis. Et j'ai connu une époque où il y avait vraiment des convertis, des gens où il y a des transformations de cœur. Moi-même, quand je me suis converti, j'étais un anti-Dieu. En 1968, j'avais épousé la philosophie de « ni Dieu ni maître interdit d'interdire ». J'étais soumis à cette philosophie, j'étais soumis à cette mentalité. Et il est clair que si vous m'aviez parlé de Dieu à cette époque-là, je ne vous aurais peut-être pas mordu, mais en tous les cas, je serais parti. Ça ne m'intéressait absolument pas, parce que j'avais une vision de Dieu purement religieuse, avec ce que la religion même dite chrétienne nous a laissé comme héritage. Et bien souvent, nous ramenons Dieu à ça, et ça nous bloque dans nos pensées, dans nos mentalités. Et même encore maintenant, il y a des gens où on est très religieux dans notre fonctionnement, et il y a autre chose, il y a quelque chose de tellement plus beau. Alors, on va d'abord prier, parce que je sais que je ne peux rien sans lui. Et même vous, vous ne pouvez pas réceptionner bien les choses sans lui aussi. J'ai besoin, ensemble, nous avons besoin de sa grâce pour que nous soyons sensibles à ce qu'il veut nous transmettre. Père éternel, nous sommes tellement heureux que tu nous dises que nous ne pouvons rien sans toi. C'est là notre force. Cette faiblesse-là est notre force parce que nous avons le choix de nous confier en toi, qui est le Logos incarné. Tu es le Verbe incarné. Tu parles et ta parole est créatrice. Ta parole est une épée à double tranchant qui sépare jonction et moelle, qui sépare esprit, Seigneur, notre esprit et la chair. Merci Seigneur pour cette parole, que cette parole soit partagée tout simplement. Seigneur, nous sommes là autour de toi. Agis Saint-Esprit, au nom de Jésus, Amen.
Merci au frère qui a pensé à moi.
J'ai mes cordes vocales qui ont été esquintées en Afrique à cause de la sécheresse de l'air. Et souvent, d'enseigner pendant des jours sans sono, c'est pas toujours simple pour les cordes vocales. Merci. Ah ouais. Ah bon, plus un Africain. Là. Yalore Bakanoun. Ça veut dire que Dieu te bénisse. En serrer. On va lire un passage des Écritures, et ça va être le titre de mon message, dans le prophète Ésaïe, chapitre 13, au chapitre 13, juste un petit verset, verset 4, chapitre 13, verset 4. « On entend une rumeur sur les montagnes comme celle d'un peuple nombreux. On entend un tumulte de royaumes, de nations assemblées. » Et écoutez cette petite phrase qui est le titre de mon message. « L'Éternel des armées passe en revue l'armée qui doit combattre. » Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous avez observé que dans le monde tout va bien. Hein? Cool, hein? Tout va bien, non? Non. Mais j'ai observé en 2023 qu'une concentration de drames impressionnant par rapport à ce que nous disent les Écritures. Le monde, il y a un tumulte parmi les nations. Les nations sont bouleversées par toutes sortes de désordres, toutes sortes de drames. On a déjà deux guerres qui ont surgi, la guerre en Ukraine, la guerre en Israël, sans parler d'autres guerres qu'on ne parle jamais, hein, bien sûr. Mais c'est pas qu'il y a au moins 13 guerres, je crois, à l'heure actuelle, hein. J'ai pas les noms, mais il y a au moins 13 guerres en ce moment. Mais il y a deux particulièrement, l'Ukraine et Israël avec le Hamas, qui veut dire violence entre parenthèses. Hein. Mais il y a ça, on parle de réchauffement climatique, hein, avec tous les désordres que ça peut occasionner. On a vu les tornades, on a vu des inondations, on a vu des feux sans précédent comme au Canada, qui ont brûlé des hectares et des hectares pendant je ne sais pas combien de mois même, en Grèce. Enfin, ça a été l'année 2023, ça n'a été que drame sur drame, drame sur drame. Alors on peut dire, oui, mais c'est normal, il y a toujours eu ça. Mais moi je peux vous dire, avec le recul de mon âge, je n'ai jamais vu ça avec une densité sur une année. La différence, bien sûr qu'il y a toujours eu des tornades, il y a toujours eu des incendies, il y a eu des tremblements de terre, et il y a eu aussi des tremblements de terre au Maroc, en Libye, au Moyen-Orient aussi. Vous voyez, il y a une concentration cette année, quelque part, qui doit nous pousser à réfléchir, parce que Jésus dit, quand vous verrez ces choses, levez votre tête, car le temps arrive. Et là, je m'adresse à vous, et je vais, avant d'avancer plus loin dans mon message, je vous pose la question, est-ce que vous aimez Jésus? Donc, est-ce que vous aimez aussi, et que vous reconnaissez que sa parole est sa parole? Elle est la parole de Dieu. Donc, on est sur le même terrain. Ok, je peux aller plus loin. Elle est la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée par le Saint-Esprit pour nous éduquer, nous corriger, et nous enseigner, etc., pour nous ouvrir les yeux, pour que nos cécités spirituelles qu'on peut avoir puissent tomber. Et tout ce que Jésus nous a dit a pour but que nous puissions apprendre à voir comme il voit et rentrer dans ses plannings à lui. Lui, il a un planning, il pense les choses d'avance. Quand il a appelé Abraham, il avait dit à Abraham qu'une grande nation serait suscitée par lui, et que dans les années à venir, que cette nation serait sous l'esclavage pendant 400 ans. Dieu, il sait tout d'avance. Il sait absolument tout d'avance, et il sait comment changer le mal en bien. Et je pense que l'Église aussi est secouée. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'Église ne reflète plus l'Église biblique. Les influences du monde sont rentrées au sein même de l'Église, où bien souvent, quand il y a des choses de l'esprit, les gens qui sont sous l'influence du monde vont réagir et se rebeller contre les choses de l'esprit. Quelque part, les adhérents se lèvent contre les convertis. Les boucs se lèvent contre les brebis. Pour ceux qui ont fait l'école transformation, vous vous souvenez du cours « Les brebis, les boucs et les loups » Vous vous souvenez de ce cours-là, hein? Hein, mais c'est d'actualité. Alors on pourrait dire, mais pourquoi Dieu il fait comme ça? Pourquoi il permet ça, tout ça? Tout simplement parce qu'il y a des principes éducatifs du royaume que Dieu va utiliser à travers les adhérents et à travers les convertis, je veux dire, à travers le bon grain et à travers l'ivraie. Le Seigneur ne va pas toucher à tout ça, mais il va permettre que tout ça pousse ensemble. On pourrait dire que ce serait peut-être plus facile s'il y avait du tri au départ. Nous, on aimerait bien, en tant que pasteur, que le tri se fasse au départ. Mais le Seigneur dit non, 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 non. On va laisser tout ça pousser. Et à la fin, le tri, c'est moi qui vais le faire. Et c'est là qu'un jour, il va y avoir un tri qui va être fait au sein de l'Église. Que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, je peux vous garantir, relisez Matthieu 24, 25, tout ça, malheureusement, il va y avoir un tri. Et je pense que déjà, ce tri commence à se faire parce que l'Éternel est en train de passer en ce moment même en revue l'armée qui doit combattre. Une chose que l'Église à oublier, c'est le but de l'Église. Nous, on pense, et même beaucoup de pasteurs, que le but de l'Église, ouais, c'est d'amener les âmes pour développer les missions, implanter les églises. On pense que tout ça, c'est le but. Ce sont que des moyens pour atteindre le but. Ce ne sont que des moyens. Et beaucoup de jeunes qui ne connaissent pas la vraie vision de l'Église, l'aboutissement de la vision de l'Église, du coup, peuvent très bien être emportés avec un zèle, un zèle qu'on pourrait dire, ouais, il en veut pour le Seigneur, mais en vouloir pour le Seigneur, c'est absolument une soumission et un attachement aux Écritures. Mon zèle a besoin d'être purifié. Dieu, moi, il a purifié mon zèle il y a des années en arrière à travers de grosses épreuves où il m'a ouvert les yeux. Hein, on peut, le pire, c'est qu'on peut être tellement sincère qu'on peut sincèrement se tromper. Allô? La Bible dit « Sois sincère, virgule, dans mes statuts. » Pas pareil. Beaucoup de personnes sont sincères. Je crois que même les gens qui s'opposent même à la foi chrétienne, à Dieu, ils peuvent être très sincères. Mais nous devons sonder aussi notre sincérité au niveau des statuts de Dieu. Alors, je vous ramène aussi par rapport à l'actualité, où en Israël, vous savez tout ce qui se passe. Et nous avons vu, moi je reçois des informations directement d'Israël par un chrétien de l'Institut biblique de Jérusalem, tenu par Jacques Elbaz, pour ceux qui connaissent. Et tous les jours je reçois, il est engagé dans l'armée en ce moment, et il a pour rôle d'informer. Tous les jours nous recevons des informations par un chrétien engagé, qui a la crainte de Dieu et tout ça. Et je me rends compte qu'à travers ces difficultés qu'ils vivent en ce moment, il y a à la fois, bon, c'est un moment difficile, mais il y a de plus en plus de Juifs qui se tournent aussi vers le Seigneur. Il y a des retours, il y a des repentances. Et là, il faut que nous, en tant qu'Église, nous puissions observer que les temps avancent et ils avancent à grands pas. Et tout ça, ça prépare le retour de notre Seigneur. Écoutez, moi, je n'ai pas envie... Oh là, je n'ai pas envie que Dieu me dise « Je ne te connais pas ». Et pourtant, Dieu dit dans sa parole qu'il va dire ça à des gens qui vivent des dimensions apparemment de l'esprit, qui chassent des démons, qui guérissent des malades au nom du Seigneur. Et c'est à des gens comme ça que Jésus dit, relisez l'évangile de Matthieu, vous verrez, je ne vous ai jamais connu. Il faut que nous revenions au sérieux de notre relation même avec celui qui est vivant, celui qui est Dieu. Nous ne sommes pas au service d'une religion. Nous ne sommes pas au service d'un mouvement religieux, quel qu'il soit, même si on est obligé, dans le cadre de nos pays, on est obligé d'avoir des reconnaissances, mais nous sommes au service de celui qui a créé l'univers, qui n'a ni commencement, ni fin. Qui est Dieu ? Nous avons affaire à lui. Il est venu à notre niveau dans la personne de Yeshua Mashiach. Il s'est révélé. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui se révèle. Nous ne suivons pas des traditions simplement religieuses. Nous suivons la révélation que le Saint-Esprit nous a donnée sur le Fils. Et je vais vous envoyer maintenant dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 16, pour vous faire voir le point de départ véritable du fondement même de l'Église, et je vais vous parler de l'objectif du but de l'Église. Matthieu chapitre 16, verset 13, où Jésus va nous donner une révélation impressionnante. Matthieu chapitre 16. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi, le Fils de l'homme ?» Avant d'aller plus loin, cette précision qui nous est donnée dans les Écritures, que Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée. Est-ce que vous savez pourquoi le Saint-Esprit précise que Jésus est sur le territoire de Césarée? On pourrait dire, mais pourquoi c'est précisé? Il pourrait le dire à Jérusalem, il pourrait le dire à Nazareth, il pourrait le dire dans d'autres villes d'Israël. Mais il n'y a rien pour rien dans les Écritures. Vous savez que Césarée était un lieu très occulte, le lieu où on adorait Baal, le lieu où il y avait les fausses religions, un mysticisme terrible, une idolâtrie terrible, hein, justement à Césarée, hein, où il y a eu toute la naissance des faux dieux, des idoles et partout. Et Jésus, là, vient à ce point précis de l'idolâtrie des faux dieux. Et à Césarée, Jésus va demander à ses apôtres, quelque part, est-ce que les gens savent vraiment qui je suis ? Alors, la réponse des apôtres, hein, ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors ça, c'est ce que les gens disaient de Jésus. Alors Jésus, deuxième étape, il va demander à ceux qui ont choisi de le suivre, donc à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Et alors là, Simon-Pierre. J'aime bien Simon parce que il a de la niaque. C'est le seul quand même qui a eu l'audace d'enjamber une barque pour marcher sur les eaux, quoi. À la demande de son maître. Si c'est toi, ben... il est... Alors, vous savez, quand il y a l'ordre de Dieu, il y a le surnaturel du royaume de Dieu qui va avec. L'ordre de Jésus a donné une dimension surnaturelle à Pierre pour pouvoir marcher sur du liquide, sur de l'eau. C'est impossible de marcher sur de l'eau s'il n'y a pas une action surnaturelle d'en haut. Mais Pierre, il croit. Il croit tellement que il a l'action qui agit en fonction de ce qu'il croit. Et il a tellement d'action qui agit en fonction de ce qu'il croit, il enjambe la marche, il marche, et il marche vraiment pendant quelques pas, tant qu'il avait les yeux sur le maître, qui est le maître de l'univers. D'accord ? Quand il a regardé ailleurs, il a commencé à couler, comme à nous, dans nos marches. Et c'est important de comprendre que la façon dont je vais regarder Jésus, voir Jésus, va déterminer, en fin de compte, aussi ma marche. Et là, l'apôtre, ce fameux apôtre Pierre, qui a l'audace de marcher sur l'eau, qu'il est quand même le seul sur les 12, les 12 étaient des disciples, d'accord ? C'était quand même des apôtres, mais il est quand même le seul sur les 12, Écoutez ce qu'il dit, « Tu es le Christ, Amashia, le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Vous savez, vous verrez dans la société, vous pouvez parler de Dieu, vous n'aurez pas trop de problèmes si vous parlez de Dieu, même en Afrique on peut parler de Dieu, dans tous les pays vous pouvez parler de Dieu, ça. Parler de Jésus en tant que Fils de Dieu, là, les problèmes commencent. De parler de Dieu, ça pose pas trop de problèmes pour beaucoup. Mais commencer à dire que Jésus est le Fils de Dieu, il est l'unique, l'incomparable, qu'il est Dieu lui-même. Alors, certains disent, « Ouais, mais vous avez trois dieux, vous. » Moi, je ne sais pas, quand je mange un œuf, il y a la coquille, il y a le blanc, il y a le jaune. Et dans un œuf, il n'y a pas trois œufs. Non ? C'est peut-être très, très bas ce que je dis. Mais quand je mange un œuf, j'enlève la coquille. La coquille, elle fait partie de l'œuf. Il y a le blanc et il y a le jaune. Il y a trois éléments différents, mais il n'y a qu'un œuf. Vous voyez, Dieu met sa signature dans ce qu'il crée. Il met sa signature dans ce qu'il crée, dans l'eau. Il y a de l'eau liquide, gazeuse et solide. Pourtant, il n'y a pas trois eaux, mais il y a trois formes et trois fonctions différentes de ces eaux. Vous comprenez ? Je vous donne des images pour essayer de comprendre cette complexité de la Trinité dont on nous reproche qu'on croit à trois dieux. Non, je crois à un seul et unique Dieu manifesté dans la personne de Jésus. Il était pleinement homme parce qu'il est venu dans un corps identique au nôtre, mais pleinement Dieu dans sa nature. Et c'est important de bien comprendre que Jésus, dans sa nature, de pleinement homme, il est venu au plus bas, du plus bas, du plus bas, du plus bas qu'on peut venir. Personne est né dans les mêmes situations que Jésus est né. Il n'y avait même pas de place dans une auberge. Il n'y avait même pas de place pour l'accueillir. Il n'y avait de place nulle part pour lui. Mais il est Dieu. Il est venu au plus bas. Pourquoi il est venu au plus bas ? Pour nous faire voir ce qu'est le chemin. Je ne peux pas arriver en haut, sur le trône, comme il a été assis après sa résurrection, sur le trône. Je ne peux pas arriver là, si je ne commence pas là. Il est le chemin. Et c'est en commençant dans les choses les plus basses que je vais apprendre les choses tellement importantes. Quand j'observe Jésus, je vois quoi en Jésus ? Je vois ce que le pleinement homme me fait voir, ce que c'est que d'être soumis au Père. Jésus est appelé l'Amen dans la Bible. Pourquoi ? Pourquoi on appelle Jésus l'Amen ? On l'appelle l'Amen parce qu'il n'a jamais dit non à son Père. L'Amen, ça veut dire « je suis en accord ». Même si ça lui a coûté à Gethsémané. Gethsémané, c'est le lieu du pressoir. Pressoir à huile, ça veut dire Gethsémané. C'est justement dans ce lieu où la volonté de l'homme, de Jésus pleinement homme, s'est soumise à celle du Père. Et ça lui a coûté même des grumeaux de sang, tellement il y a une intensité où il a soumis la volonté de l'homme, il a racheté la volonté de l'homme, hein, l'homme insoumis. Nous, il nous voyait en soumettant sa volonté. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre qu'il y a eu du sang qui a coulé à Gethsémané. Et le sang, il nous parle. Le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang parle, le sang a un langage. Et le message de ce sang-là qui a coulé à Gethsémané, c'est régénération totale de la volonté de l'homme, qui va plier devant celle de du Père, qui va lui donner la force pour accomplir ce que sa nature humaine était incapable d'accomplir. Non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ça, suivre Dieu. On ne suit pas Dieu simplement avec une confession, dire « Seigneur, je veux te suivre », on se fait baptiser et tout au long de la semaine, on fait que ce qu'on veut. Dans le dernier verset du livre des Juges, il dit « Chacun faisait ce qui lui semblait bon ». Pas ce qui lui semblait mauvais, mais ce qui lui semblait bon. Et pourtant, c'était un désordre, une confusion totale dans le peuple d'Israël. C'est sérieux que de se dire « être chrétien, mes bien-aimés ». Tous les gens s'opposent à Dieu à cause de la religion, qui n'a pas reflété la gloire de Dieu, qui n'a pas reflété le cœur de Dieu, qui n'a pas reflété l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, les dimensions de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons de multiples personnes qui sont opposées à Dieu à cause de ça, dont je faisais partie moi-même. Mais quand vous avez devant vous quelqu'un qui a la crainte de Dieu, là, il y a quelque chose qui résonne du royaume et qui va tellement répondre aux besoins les plus profonds de mon cœur. N'est-ce pas Blaise Pascal qui a dit « Il y a un vide dans le cœur de l'homme qui a la forme de Dieu ». Essayez de mettre d'autres formes que Dieu dans le cœur, vous ne serez jamais satisfait, jamais comblé, jamais. C'est impossible. Dieu il a permis que ce vide, il a la forme de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut vous combler, il n'y a que Dieu qui peut vraiment répondre aux aspirations les plus profondes, où il met un socle à ce tonneau sans fond qu'est notre cœur. Il n'y a que lui qui peut nous satisfaire, pas les systèmes religieux, quels qu'ils soient. Même les systèmes religieux dits chrétiens, nous devons revenir à la base, au fondement, parce que mes bien-aimés, il y a un but tellement glorieux pour l'Église. Aujourd'hui, nous sommes dans des temps où on pleure, comme Jésus a pleuré à Gethsémané, comme c'était tellement difficile. Hein? Jésus a dit avec l'apôtre Pierre. Pierre qui a dit à Jésus, il a reconnu en Jésus qu'il était le Fils de Dieu, du Dieu vivant. Je continue, Jésus reprenant la parole lui dit, mais tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. C'est mon Père. Quand nous avons une reconnaissance, une conviction, un discernement de la nature de Christ, ce n'est pas quelque chose qui vient sur la base de nos raisonnements, de notre intelligence. Ça vient du Père. Si le Père se révèle à des êtres pécheurs comme nous, comme chacun d'entre nous, c'est une grâce incroyable que Dieu fait, parce qu'il aurait très bien pu nous laisser dans l'état où on était. Il n'était pas obligé. Il aurait pu. Mais il a un plan, et un plan tellement glorieux, où nous allons voir la lumière triompher des ténèbres. Nous allons voir la gloire que Dieu prépare même pour son Église. La gloire qu'il prépare pour son Église, c'est une gloire qui l'élève lui et lui seul. Il nous sauve pas que pour nous-mêmes, il nous sauve pour sa gloire. C'est le Père qui est dans les cieux qui t'a révélé. Écoutez ce que Jésus dit. « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je vais m'arrêter là-dessus. On a l'impression que quand Jésus dit ça, qu'il est l'inventeur de l'ecclésia. Mais pas du tout. Ecclésia, c'est le terme grec où on a tiré le mot église. D'accord. Quand Jésus parle de l'ecclésia, il faut savoir que 4 siècles déjà avant Jésus-Christ, on parlait déjà de l'ecclésia. Il y avait les ecclésias chez les Grecs, il y avait aussi des ecclésias chez les Romains. Et les ecclésias, c'était des gens qui sortaient de la société pour gérer les choses de la société. Et au niveau des Romains, il y a eu des ecclésias où les ecclésias romaines sortaient des hommes de la société soumis à un général pour un but, aller abattre les portes des villes et faire grandir l'empire. Waouh! Et Jésus, il parle, ça résonnait à cette époque. Aujourd'hui, on parle d'Ecclésia, nous on voit tout de suite l'église, le clocher, voilà. D'accord? Voilà ce qu'on voit. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. On voit que ça. Mais Jésus, lui, il voyait déjà les Ecclésias, le principe que des gens soient mis à part, soient assemblés, appelés hors d'eux pour un but bien précis. Pour les Romains, c'était pour les conquêtes des villes, pour faire grandir l'empire, etc. Et Jésus va prendre ce modèle, sauf la différence. C'est que Jésus, il dit « mon ecclésia ». Il ne parle pas d'une ecclésia parmi tant d'autres. D'accord ? Il ne parle pas des ecclésias qu'il y avait en Grèce ou chez les Romains ou autres. Il ne parle pas de ça. Il prend le principe qu'il y ait un peuple qui soit appelé pour quelque chose de très spécifique, avec la soumission d'une autorité pour atteindre un but. Hello ? Alors, Jésus, quand il nous appelle, quand il a appelé les 12, il a prié 12 heures pour choisir 12 disciples. Si on calcule, hein, même ceux qui ne sont pas forts en maths, on sait que ça fait 1 heure par disciple. Ouais. Et il a 12 heures pour choisir 12 disciples. Et il leur a adressé un appel pour les sortir du milieu de la société. Il les a appelés à simplement lever la main, « Seigneur, je veux te suivre et je te reçois comme sauveur. » Non. Jésus, il a été devant. Il dit « Suivez-moi. » Vous remarquerez, pour ceux qui suivent les informations au niveau d'Israël, c'est étonnant le nombre d'officiers qui tombent tous les jours. Nous avons des lieutenants, des capitaines, des commandants, des colonels, des généraux parmi l'armée israélienne qui meurent tous les jours. Et j'ai posé, moi, on avait un pasteur Claude Isagouri qui était avec nous au mois de décembre, là. Il est pasteur, un pasteur juif de Tibériade. Et je disais à Claude, comment se fait-il qu'il y ait autant d'officiers qui tombent comme ça? Il me dit tout simplement, c'est que dans l'armée israélienne, les officiers ne disent pas aux soldats « Allez-y ». Les officiers disent « Suivez-moi ». Ils font exactement ce que Jésus fait. Jésus ne dit pas « Allez, je vous envoie dans le monde, hein, allez-y hein. ». C'est que lui, il est venu d'abord dans le monde. Il est d'abord l'exemple, il est d'abord à la pointe. Il est celui qui connaît, puisqu'il vient du royaume. Il est le seul qui a vu le Père comme il l'a vu. Il vient du royaume, il vient d'une sphère qui est complètement différente de la nôtre. Il a dû se dépouiller de toute sa gloire avant pour venir un simple homme. Vous avez ça dans Philippiens 2. Vous voyez, mais avant d'être dépouillé, il savait, il connaissait. Combien nous sommes parfois remplis de prétentions, de savoir, de connaître.
alors que nous ne savons pas, mes bien-aimés. Dieu, quand il va passer en revue l'armée qu'il va combattre, il va d'abord regarder l'humilité qu'il y a dans notre cœur. Dieu a dit que c'est dans notre faiblesse que s'accomplit sa puissance, sa gloire. C'est jamais dans notre force, mes bien-aimés. Jamais. Et faisons attention de ne pas utiliser nos prétentions pour essayer de défendre une bonne cause, qui est la cause de l'Église. Mais est-ce que nous savons vraiment que mes prétentions sont-elles en harmonie avec sa volonté, son plan? Est-ce que nous savons? Vous savez, quand je suis venu là, j'ai passé du temps pour prier pour vous. Et je n'ai pas voulu venir avec mes 50 ans d'expérience, avec les œuvres pionnières, avec tout ça. Je suis venu avec un cœur en disant à Dieu, je ne sais pas. Toi seul connais chaque personne. Chaque personne a tellement de valeur pour lui. Et je crois que dans les temps qui viennent, Dieu veut mettre, il cherche des hommes et des femmes qui vont vraiment lui faire confiance. Des hommes et des femmes qui vont rentrer dans l'ADN du royaume. Des hommes et des femmes qui vont vraiment suivre le chemin qu'est sa personne avec son ADN. Jésus nous a donné, en fin de compte, une définition tellement palpable, concrète, pour voir où on en est dans son amour, quand il nous dit, mais celui qui m'aime, c'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur. C'est même pas celui qui va prier ou qu'il y avoir des exaucements de prière. Non, 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 non. C'est celui qui garde sa parole, son cœur. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, la Bible nous dit que quand Dieu voit son Église, il dit « Tu es noir, mais tu es belle ». Dieu nous voit déjà dans le accompli de Dieu. Dieu nous voit à travers qui ? Pour nous dire qu'on est beau, à travers le Fils. Et si je veux aller là où le Fils a été, j'ai besoin de le suivre, pas simplement de croire avec des confessions que je peux proclamer tout en faisant ma volonté. Si je fais que ma volonté et je décide que ce que je décide, je peux avoir de bonnes confessions, mais avoir à côté, faire prévaloir ma volonté. Si je fais prévaloir ma volonté, mon bien-aimé, je suis dans un principe idolâtre. L'idolâtrie a pris sa naissance quand il y a eu la séparation de Dieu et de l'homme avec Adam et Ève. Quand il n'y a plus la présence de Dieu, un vide s'est fait ressentir. Le vide. Et tout ce qu'on remplit dans ce vide devient une idole. La pire idole, ce n'est pas des statues. Nous, les évangéliques, on est très doués pour avoir un doigt accusateur sur les catholiques, sur d'autres, parce qu'ils ont des statues. Mais quand je fais ma volonté, mes bien-aimés, je suis dans un principe idolâtre, parce que ma volonté, elle est entre Dieu et moi. Comprenez ça? J'ai besoin de revenir à ce que Romains 12 me dit, Romains 12, chapitre 12, verset 2. Il dit de mettre nos vies sur l'autel. Nos vies doivent être mises sur l'autel. Et l'autel nous parle de sacrifice. On est prêt à sacrifier des tas de choses. On est prêt à donner des tas de choses. Mais est-ce qu'on est prêt à donner notre volonté? Regardez nos réactions quand nous sommes contrariés. Il y a un verset de la parole de Dieu qui m'a bouleversé. Il m'a fallu du temps pour comprendre ce verset-là. Des années, je veux dire. Ce que je vous dis en quelques minutes, c'est qu'il m'a fallu des années pour comprendre un verset que l'apôtre Pierre dit, que Dieu nous dit que nous sommes appelés à vivre des choses injustes, virgule. Et Dieu dit, c'est un privilège. J'ai dit, là, Seigneur, il doit y avoir une erreur quelque part, là. C'est un privilège. Comment Dieu peut dire ça? Comment Dieu peut dire ça, que nous sommes appelés à vivre des choses injustes, c'est un privilège? Comment Dieu peut dire ça? Il a fallu que je vive des choses très injustes en 1994. Je sais ce que c'est de pleurer, je sais ce que c'est. J'étais à deux doigts de lâcher le ministère. Et Dieu est intervenu. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'en vivant des choses injustes, nous n'avons qu'un seul recours pour tenir debout, c'est lui. Nous n'avons qu'une seule force, parce que nous n'en avons plus, c'est encore lui. Un seul espoir, c'est encore sa parole. C'est lui qui nous tient debout. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui nous donne l'espérance. C'est lui qui nous donne vraiment la trajectoire à suivre. Et il veut, dans cette armée qu'il appelle hors du monde, cette armée, il la veut unie. Nous ne pouvons pas penser, déjà sur le plan militaire, qu'une armée fasse n'importe quoi. Moi, j'ai fait mon armée en 74, on faisait pas n'importe quoi. On faisait ce qui était décidé au niveau des hauteurs des généraux. Avec les colonels, les commandants, les capitaines, les lieutenants, etc., jusqu'aux deuxième classes. On ne faisait pas ce qu'on voulait, on n'était pas habillé comme on voulait, même si on n'aimait pas le kaki, il n'avait rien à faire, même si on n'aimait pas les coupes courtes, il n'avait rien à faire, même si on n'aimait pas les rangers, il n'en avait rien à faire. Je suis enrôlé dans une armée. Et c'est grâce à cet enrôlement dans cette armée que je peux apporter quelque chose d'efficace pour, déjà sur le plan humain, pour sécuriser une nation, etc. Mais là, nous sommes enrôlés, mes bien-aimés. Vous êtes, si vous avez dit oui à Jésus, vous êtes enrôlés vraiment dans l'armée de l'Éternel. Il est le général en chef, mes bien-aimés. Et il y a une chose que nous ne pouvons pas nous permettre. C'est une séparation, une division entre nous, entre chacun d'entre nous. Je vous renvoie à 1 Corinthiens 11, versets 27 et 29. Je ne vais pas le lire pour gagner du temps. Pardonnez-moi si je suis long, mais c'est tellement important. Dieu nous exhorte à la Sainte Cène. Dans la Sainte Cène, il nous dit une chose importante. De discerner le corps du Seigneur. Pendant des années, moi, quand j'ai pris la Sainte Cène, j'étais bien centré sur la personne de Jésus qui a donné sa vie en sacrifice pour mes péchés, son sang qui a coulé, etc., où on l'a mis au tombeau, tout ça pour moi. Pendant des années, j'ai pris la Sainte Cène comme ça. Un jour, je dis, Seigneur, mais pourquoi tu dis que si on ne discerne pas ton corps, il y a parmi vous beaucoup de malades et même un grand nombre sont morts. J'ai dit, il y a quelque chose. Fais-moi voir, Seigneur. C'était mon cri, c'était ma prière. Fais-moi voir, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que c'est que discerner ton corps? Et vous savez que la Bible explique la Bible. Vous êtes au courant de ça. Ça s'appelle l'herméneutique. D'accord? On comprend la Bible par la Bible. On ne comprend pas la Bible en sortant les contextes des Écritures, selon ma culture, mon éducation, mes souffrances, etc. On ne comprend pas la Bible en fonction de ça. On comprend la Bible par la Bible. C'est la meilleure interprétation de la Bible, c'est la Bible. Et c'est à moi de me soumettre à la compréhension de la Bible par la Bible, et je laisse tout ce qui fait partie de mon éducation, ma culture et tout ça. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible nous enseigne une chose, c'est que Jésus est mort sur la croix pour se constituer un corps. Comme dans les Ecclésias romaines. Il s'est constitué un corps. Il s'est constitué une armée. Et quand je prends la Sainte Cène, mes bien-aimés, je pose la question, qu'est-ce que c'est que de discerner le corps du Seigneur? Le corps du Seigneur, c'est toi, c'est moi. Je ne peux pas prendre la Sainte Cène
alors que c'est un acte d'obéissance où je dois prendre la Sainte Cène. Toutes les fois où vous vous rassemblez, nous on prend la Sainte Cène tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches. Même certains anciens se retrouvent des fois chez eux, ils prennent, en couple, ils prennent la Sainte Cène. C'est hyper important. Pourquoi ? Parce qu'en discernant le corps du Seigneur, est-ce que si je prends la Sainte Cène avec André, la question que je vais me poser pour discerner le corps du Seigneur, c'est est-ce que ce membre-là fonctionne bien avec ce membre-là ? Vous savez que si vous mettez un garrot quelque part, c'est pas bon, hein ? Parce qu'au bout d'un moment, il y a du bleu, et au bout d'un moment, c'est tellement mort qu'il faut couper, hein ? D'accord ? Mais la question, si je prends la Sainte Cène avec André, est-ce que je suis en union, en communion ? Est-ce que je peux dire, bon, on prend ensemble, est-ce que je suis en harmonie avec celui qui nous a appelés ? Et l'abîme nous dit, s'il y a quelque chose, quand ton frère et ta sœur va, nous avons une ligne conductrice dans la première épître de Jean, chapitre 1, de savoir comment faire pour marcher dans l'amour. Si nous marchons dans l'amour, Dieu nous demande d'être dans la lumière. Il ne peut pas y avoir de marche dans la lumière, dans l'amour, s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de transparence. Si j'ai quelque chose avec André, que je prends la Sainte Cène, et que peut-être j'ai un ressentiment, quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas prendre la Sainte Cène. Par contre, je dois la prendre parce que c'est un acte d'obéissance. Alors qu'est-ce que je dois faire ? La seule solution, c'est de régler mon problème. Je ne peux pas ne pas prendre la Sainte Cène parce que je veux obéir à Dieu. Mais je dois la prendre avec la vision, le discernement, qui est rien. Parce que sa vie dépendante de moi et vice-versa. Nous sommes tous dépendants. Nous sommes comme dans un écosystème, nous sommes tous dépendants des uns des autres. S'il y a des choses que tu retiens dans ton cœur, tu es en train de te faire mal et faire mal à tout le reste. Nous ne pouvons pas nous permettre ça, mes bien-aimés, parce que nous sommes l'armée de Dieu, que Dieu se prépare pour un but que nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Écoutez, là nous avons la révélation du but. Absolument extraordinaire. Celui qui vaincra. Jésus qui parle. Écoutez ce qu'il dit. Je le ferai asseoir. Avec moi. Lui, il est déjà assis. Il s'est assis sur le trône de Dieu. Seule fois où il s'est levé quand on a touché à un de ses fils qui s'appelle Étienne. Où Étienne a vu Jésus debout. Avec le trône, il était debout. On touchait l'un de ses fils. Toucher un enfant de Dieu, mes bien-aimés, c'est de toucher à Christ lui-même. Vous pouvez le toucher simplement par vos pensées. Vos pensées devant Dieu sont comme des actes. Nos pensées sont comme des actes. Il faut que la crainte de Dieu revienne dans l'Église de Dieu. Mes bien-aimés, c'est tout mon cœur. Il n'y a aucune accusation. Je ne veux pas mettre de culpabilité sur personne. Et ce que je vous dis à vous, je le me le dis à moi. Je veux que la crainte de Dieu revienne dans sa totalité. Nous ne pouvons pas, mes bien-aimés, parce que nous sommes l'armée de Dieu qui est appelée à s'asseoir sur le trône de Dieu. Est-ce que toute l'Église sera assise sur le trône de Dieu ? Non. C'est celle qui vaincra. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu nous appelle. Il nous appelle quand à le suivre. Jésus nous a dit que le chemin, il était étroit, il était rocailleux. La porte, elle est étroite. Il n'y a rien de spacieux. Aujourd'hui, il y a tellement de faux évangiles où on est là dans l'évangile du bien-être. On vient à l'église, on veut entendre des serviteurs, on veut entendre des grands serviteurs qui vous parlent, viens à l'Éternel et tu vas prospérer en tout domaine.
Je n'entends pas ça dans la bouche de Dieu. La prospérité dont il est question dans la parole, c'est une prospérité de la vie de Dieu dans notre vie. Est-ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il était en prison, il n'était pas dans la prospérité ? Oh, question. Est-ce qu'il a été abandonné de tous, il n'était pas dans la prospérité ? Question. Est-ce quand il a été lapidé, laissé pour mort, hein, abandonné de tout, est-ce qu'il n'était pas dans la prospérité ? Si, il était en prospérité. Car même en prison, c'est là que Dieu l'a utilisé pour écrire les épîtres que vous avez, que j'ai. Voyez, les choses, nous sommes appelés à vivre des choses injustes. C'est un privilège. Il a eu le privilège de bénir des générations jusqu'à notre génération à nous. Les injustices que Paul a vécues, il les a traversées glorieusement. Et Dieu a continué à l'utiliser, même en prison, pour que des générations, jusqu'au retour de Christ, aient la révélation divine par les Écritures. Est-ce que nous sommes prêts à mettre nos vies sur l'autel ? On parle du sacrifice de Christ, mais Christ, il nous appelle à mettre nos vies sur l'autel. C'est un message de bonne année. Hein. Je vous annonce le meilleur, mes bien-aimés. C'est un message de bonne année. Il faut que nous comprenions que la pédagogie divine, elle est dans votre quotidien. Peut-être c'est qu'on a des difficultés avec leur épouse ou leur époux. Chaque difficulté peut être un moyen pour vous éduquer à grandir dans la patience, dans le discernement, dans le don, dans l'amour gratuit, sans condition. Chaque difficulté que vous rencontrez peut-être dans votre travail, dans vos familles, peut-être dans la société, chaque difficulté est sous le regard du Père et il va permettre certaines choses. Nous sommes appelés à vivre des choses injustes, mais c'est un privilège parce que Dieu veut faire ressortir ce qu'il y a au fond de nous-mêmes pour, en fin de compte, parce qu'on ne se connaît pas. Et ce qui sort au fond de nous-mêmes, la rancœur, de l'orgueil, des prétentions, je sais, je connais, hein, c'est moi qui ai raison, etc. Il veut faire ressortir tout ça. C'est de la boue pour que nous puissions lui apporter le plus beau cadeau que nous puissions lui apporter, qui sont nos péchés. N'apportez pas vos prétentions devant Dieu. Seigneur, je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi, Pierre. Avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié trois fois. Dieu, il a enfermé tous ses disciples dans un échec de leur formation biblique sur le plan humain. Tous ont été mis en échec, mes bien-aimés. Pourquoi ? Il fallait surtout pas que l'Église soit bâtie sur la prétention humaine. L'Église a été bâtie sur des cœurs qui ont été brisés par leurs péchés, par leur prétention de pouvoir savoir aimer Dieu, pouvoir le suivre jusqu'au bout. Mais bien-aimés, nous en sommes tous incapables. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire de savoir que nous sommes incapables. Mais il est le Rédempteur. C'est parce que nous sommes incapables que lui, il est venu au plus bas, il a suivi notre itinéraire, notre parcours, jusqu'à la crucifixion, pour pouvoir vivre la résurrection et nous envoyer le Saint-Esprit pour nous conduire sur le même chemin. Sur le même chemin. Vous voulez servir Dieu. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que j'ai affaire à des gens vraiment honnêtes, sincères, dans leur cœur, mais des fois tellement trompés par toutes sortes de choses qu'on peut entendre sur Internet, hein, par des prédicateurs qui n'annoncent plus l'Évangile, qui est l'Évangile. Tu es qui ? Tu es le Fils unique de Dieu. Je me prosterne devant toi. Je ne veux pas faire valoir mes prétentions, quoi que ce soit. Je veux simplement ta gloire. Pourquoi ? Dieu demande à des jeunes de se soumettre aux aînés, par exemple. Pourquoi ? Est-ce que Dieu veut humilier les jeunes ? Non, certainement pas. Il est bon aux jeunes de porter le joug pendant sa jeunesse. Vous savez que le prophète Jérémie, quand il a dit ça dans Lamentations de Jérémie, chapitre 3, il a comme exemple sous ses yeux le labourage des champs avec les bœufs et la charrue. Et à l'époque, les bœufs étaient tout le temps accompagnés d'un autre bœuf, mais on prenait un jeune bœuf à côté d'un vieux bœuf. Et on mettait le joug, vous savez, le joug, c'est la barre de bois qui rallie les deux animaux. C'est-à-dire qu'ils sont attachés ensemble, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Le vieux bœuf, il a une expérience de vie derrière lui. Il est soumis au maître. Il est vraiment soumis au maître. Il apprend à s'arrêter quand le maître dit stop. Il apprend à aller dans la direction du maître. Le vieux bœuf, depuis des années, il a appris, il sait, il connaît là. Il est dans la bonne trajectoire, il est bien dans la pensée du maître qui conduit les opérations. Mais les jeunes bœufs qui sortent de l'étable là, hein, ils sortent. T'as déjà vu les jeunes bœufs? Ils sortent, ils sautent comme des gazelles. Hein. Enfin, ils sont quand même plus lourds que des gazelles. Mais c'est ça, un jeune bœuf. Il va aller. Ah, il est plein de vie. C'est bien. C'est absolument bien d'être plein de vie. Mais, pour porter vraiment du fruit, pour faire ce que le maître veut, ben, je vais te mettre à côté d'un vieux bœuf. Et si tu acceptes ce joug, bien, tu vois, tu vas apprendre ce que le vieux bœuf, lui aussi, a dû apprendre quand il était jeune. Et tu vas devenir opérationnel pour le maître. Dieu cherche et passe en revue l'armée qu'il doit combattre. Il cherche peut-être des jeunes bœufs qui se mettent aussi à côté de ceux qui ont l'expérience, ceux qui ont su pleurer et persévérer, ceux qui ont cru, ceux qui ont porté du fruit à la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire que les vieux, on n'a pas encore à apprendre. Mon père spirituel, qui avait 84 ans quand j'en avais 22, qui était un ancien poilu de la guerre de Verdun, qui était pasteur depuis 60 ans, quand j'étais à l'école biblique, il m'a dit une chose qui m'a toujours marqué, qui me marque et qui me marquera jusqu'à ma mort. J'étais à l'école biblique, vous savez, à l'école biblique, quand on apprend, on a l'impression qu'on sait tout. Hein. On sait. Ah oui, on est dans la parole tous les jours. Hein. On sait quoi. Mon vieux père spirituel m'a dit, Gilles, n'oublie jamais que si tu n'es pas apte à apprendre toute ta vie sera en danger. Waouh ! Croyez-moi, ça casse. Un jeune de 22 ans, tout d'un coup, on sent comme un joug qui se met là, hein, et on a l'impression, bon, on n'est plus libre. Non. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. Notre liberté, elle doit être liée à notre choix de suivre le maître. La conduite du Saint-Esprit, vous avez ça dans Galates, chapitre 5. La conduite du Saint-Esprit, c'est afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Vous n'avez pas lu ça? On n'a peut-être pas la même Bible. C'est la conduite du Saint-Esprit, la vraie conduite du Saint-Esprit. C'est afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Alors, ouais, mais dans ce cas-là, il y a un vide. Ben oui, il y a un vide. Alors, dans ce cas-là, invite vraiment le Saint-Esprit et les Écritures qui va remplir ton vide et tu verras. Tu vas être efficace, tu vas porter du fruit. Tu vas vraiment accomplir ce que le Maître désire pour toi. J'aurais tellement de choses encore à vous dire sur ce thème. Je pourrais parler tout l'après-midi encore. Il y a tellement de choses importantes. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a une chose qui nous sépare de l'onction de Dieu, de la bénédiction de Dieu. C'est pas parce que Dieu est amour qu'il bénit tout et n'importe quoi. La Bible nous dit dans le chapitre 59 du livre d'Ésaïe, il dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas trop court pour secourir. Et combien, devant la société dans laquelle nous sommes, nous nous sentons démunis pour savoir comment faire pour atteindre ces gens, pour qu'ils puissent recevoir l'Évangile. Vous savez, vous, comment faire? Tu sais comment faire, toi, André? Mais moi, je ne sais pas comment faire. Ah, oui, mais si on ne sait pas comment faire, on va se tourner vers celui qui sait faire. Comprenez ? Derrière le vieux bœuf, il y a le maître qui conduit les rênes, d'accord ? Et derrière notre vie, il y a Jésus, hein, qui est lié avec une alliance avec nous, avec le Saint-Esprit. Il y a que lui qui sait, bien-aimé. Si nous ne prenons pas cet axe de chemin, de mentalité, de vision, d'état d'esprit, eh bien, vous allez pleurer. Et vous ne verrez pas la gloire de Dieu comme vous l'espérez. Il y a des contrefaçons. Nous sommes dans un monde de contrefaçons, surtout dans le milieu chrétien. Il y a des contrefaçons de paix, contrefaçons de joie, contrefaçons même de vie chrétienne, bien-aimé. La seule chose de discerner la contrefaçon, c'est la même chose que quand on discerne un faux billet. Les ingénieurs, la première fois qu'ils ont construit un appareil pour discerner les faux billets, ils n'ont jamais été chercher les faux billets pour construire un appareil. Ils ont construit un appareil sur la base du vrai billet. Tout ce qui était faux se discernait naturellement. Nous avons le plus grand appareil pour discerner le vrai du faux. Nous avons cet appareil qui a été conçu par le Saint-Esprit, qui a été conçu celui qui est Dieu. Et si nous sommes des hommes et des femmes de la parole, nous n'accepterons pas d'avoir une ombre entre un frère et une sœur. Pourquoi ? Parce que sinon, je ne peux plus prendre la Sainte-Cène, et ce n'est pas normal. Et pour pouvoir prendre la Sainte-Cène, il faut que je règle. Comment je peux régler ? En mettant dans la lumière. Et c'est là, c'est dans ce contexte-là que Dieu dit, ben, si quelqu'un a péché, ben, qu'on fait son péché. Et Dieu qui est fidèle et juste, il va pardonner et purifier de tout péché, de toute iniquité. Les missions en Afrique ont été basées sur ce passage de l'épître de Jean pour gérer les problèmes, les conflits qu'il y a. Parce que là où vous mettez des êtres humains, il y a toujours des conflits. C'est normal. Oh, c'est normal. C'est normal. Pourquoi ? Parce qu'on est tous différents. Vous avez un ADN différent, une empreinte digitale différente. Dieu nous a fait différents. Et nos différences doivent rentrer dans la mentalité de complémentarité et non de rivalité. Si je suis dans la rivalité, je vais blesser, je vais faire mal. Mais ça, ce n'est pas l'esprit du Seigneur, ce n'est pas l'ADN du Seigneur. Rentrez dans la vérité, rentrez dans la pensée de Dieu. Vivez l'évangile au milieu de vous. N'ayez pas peur de dire « j'ai tort ». Nous, les hommes, on a du mal à ça. Les femmes sont plus humbles pour le dire. Mais les hommes, on est des mâles. Hein. On a du mal, on se raccroche toujours à une branche. Acceptons qu'on a tort quand on a tort, mes bien-aimés. C'est une grandeur de reconnaître nos torts. C'est un grand tort de dire, là, ça ne peut pas continuer comme ça. Je te demande pardon. Et est-ce que tu veux me pardonner ? Bien sûr, on va se pardonner. Qu'est-ce qui se passe ? Croyez-moi, je le vis vraiment dans les missions africaines. Et Dieu sait que c'est pas simple. C'est pas simple, hein, normalement. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui est soudée comme les doigts de la main. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu des grandes révélations ? Non. Il y a une mise en pratique de ce que je vous dis, tout simplement.